Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Alice Chireux, bonjour.
Bonjour.
Et Nelly Libert, bonjour à vous
deux.
Vous êtes toutes deux parentes d'élèves à l'école Buissonnière qui était installée à Caracol. C'est Fincru Katabiassine. Et donc, vous êtes ici pour nous parler de plusieurs abords hein, autour de cette école, principalement celui d'un financement participatif qui a débuté ce 10 novembre et cela jusqu'au 17 décembre. Vous nous parlerez également de l'association Médiane qui chapeaute un peu cette structure et cette école buissonnière. Et puis, nous allons aussi aborder un peu divers aspects de cette école et puis de sa pédagogie notamment. Alors, avant tout, Alice Chireux et Nelly Libert, pour vous, qu'est-ce qui semble important pour vous d'avoir un enfant inscrit dans cet établissement ?
Eh bien, cette école elle propose des pédagogies actives qui sont basées sur l'éducation à la paix et le lien à l'environnement. Et l'intérêt pour l'enfant, c'est que, en fait, il apprend l'autonomie, il apprend à son rythme et il travaille dans la joie. Voilà, et je trouve ça c'est essentiel pour les enfants d'arriver à l'école. Ils sont contents de retrouver les copains et puis ils vont apprendre là où ils en sont et avec l'appui de l'équipe éducatrice.
Idem pour Nelly.
Oui. Pour moi, j'ai choisi cette école, enfin on a choisi avec mon compagnon cette école parce qu'on se rendait compte que notre fille, elle avait un rythme qui n'était pas totalement adapté au rythme de l'école classique, on va dire. Et j'avais peur que ça puisse lui faire perdre confiance en elle. Et là, ce que j'ai apprécié dans ce que proposait l'école buissonnière, c'était que justement, on s'adaptait à son rythme, ce qui pouvait aussi lui permettre de gagner en confiance. Et puis, l'école considère aussi les différents types d'intelligence que tout être peut avoir et vient aussi solliciter les enfants sur des activités très pratiques. Il y a aussi beaucoup d'échanges entre eux sur le vivre ensemble, toutes les dimensions des émotions. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être très enrichissant pour elle.
Pour chacune de vous, votre enfant est à quel niveau scolaire, dans quel cycle primaire ?
Oui, il est en primaire. Alors moi, j'ai deux enfants. Le premier donc, est maintenant au collège et il a fait toute sa scolarité primaire à l'école buissonnière. Et en fait, c'est un enfant qui a des facilités. Et justement, il a pu vraiment développer ça et avancer très vite au sein de l'école. Ce qui lui a permis de sauter une classe, en fait. Donc, de CM1, il est passé en 6e. Et maintenant, ça se passe très, très bien au collège. Et le plus petit, il est en CM1.
Et Nelly ?
Et pour moi, c'est pareil. Elle est en CM1. Et l'école buissonnière, c'est une école primaire.
Alors, sur quels critères vous êtes-vous rendu compte que votre enfant serait mieux dans une école telle que l'école buissonnière par rapport à l'éducation nationale? Ce que propose l'éducation nationale, qu'est-ce qui vous a interpellé sur cette possibilité?
Déjà, ils offrent plein de possibilités en termes d'ateliers. Ils peuvent travailler la terre, ils peuvent faire de la poterie, ils peuvent faire de la couture. Faire de la musique et moi je trouve ça vraiment intéressant de développer tout ce qui est créatif hein, qu'on trouve pas forcément ou c'est plus limité dans un établissement classique et en fait pour moi c'est hyper important que les enfants soient curieux et créatifs et qu'ils développent aussi leur imagination.
Pour cela, vous êtes très à l'écoute hein, de vos enfants et de pouvoir peut-être se proposer hein, cette alternative à l'école publique. Mais je reviens sur cette question. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de placer vos enfants dans cette école buissonnière ?
Déjà, ils sont moins. Enfin, il y a moins d'enfants dans les classes. Donc, ça veut dire que les éducatrices sont plus à même de s'occuper d'eux individuellement. Donc il y a plus d'écoute à mon sens. Et il n'y a aucune pression. En fait, les enfants n'ont pas de notes. Donc il n'y a pas de compétition, en fait. Et je trouve ça vraiment un bénéfice pour développer la confiance en soi et travailler dans la coopération. Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers où les enfants travaillent ensemble. Ce n'est pas chacun pour soi. Et moi, je trouvais ça vraiment important de développer ça, en fait. D'où mon choix aussi de l'inscrire dans cette école.
Alors, l'école buissonnière est gérée par l'association Médiane, et qui est constituée donc de professionnels, mais aussi de parents d'élèves également. Et qui d'autres aussi font partie de cette association?
Alors, il y a des bénévoles extérieurs. Bon, c'est vrai que la plupart sont les parents. En fait, ils s'engagent énormément sur toute l'année scolaire, en fait. Et on a quelques personnes extérieures qui sont intéressées au projet.
La majeure partie des adhérents actuellement sont les parents, mais que comme Caracol s'ouvre à plein de nouveaux projets, l'invitation est d'intégrer des nouveaux adhérents qui participent à la vie du lieu.
Je reviens un peu sur cette association Médiane. Vous dites qu'elle elle agit de manière collégiale. C'est-à-dire que... il y a les parents qui ont une grande part de présence dans ce conseil. Et c'est aussi quels sont les choix que les parents proposent aux professionnels qui sont au sein de l'école. Et est-ce que vous basez aussi sur un programme de l'éducation nationale, malgré tout, pour rester dans dans la procédure d'éducation?
J'ai envie de dire que en tout cas moi, j'ai assez confiance dans ce que proposent les éducatrices parce que c'est vraiment leur métier et elles se sont formées à différentes pédagogies et de ce que j'en vois, c'est qu'elles savent proposer les outils au moment où c'est opportun de les proposer. Pour autant, elles nous font beaucoup part de ce qu'elles partagent avec les enfants et de ce qu'elles leur proposent. Donc on a des réunions pédagogiques à chaque période où elles nous font part aussi des interventions extérieures qui pourra y avoir donc, par des personnes qui proposent autre chose que ce qu'elles proposent comme éducatrices. C'est là où, par exemple, les ateliers couture, les ateliers poterie ont pu être proposés. Et elles nous font aussi part de comment elles s'outillent ou elles essayent de réguler le groupe parce que certaines fois, notamment en début d'année, le temps que le groupe fasse connaissance, ça peut se passer plus ou moins facilement. Donc on a quand même des échanges sur ce qu'elles mettent en place. Et nous, après, nos forces de proposition, ça peut être justement pour venir animer des temps d'intervention spécifiques. Dès qu'il y a la compétence chez certains parents et l'envie de proposer des choses aux enfants, c'est totalement ouvert. Donc il y a eu des ateliers de théâtre qui ont été proposés, d'animation, de cinéma d'animation, et ça par les parents de l'école.
Par exemple, Lorelai, donc une maman qui est chanteuse lyrique, elle a proposé des ateliers musique et neurones, et justement pour développer ses multiples intelligences.
Vous-même, êtes allée dans une école buissonnière ou une école parallèle, jeune?
Non, moi
je n'ai pas eu cette chance.
Non, moi j'étais dans une école classique et en fait je me suis rendu compte que... Maintenant, a posteriori, je me rends compte que j'étais très scolaire. En fait, elle me convenait totalement. Par contre, j'ai pu, dans mes voyages notamment, et au Mexique spécifiquement, rencontrer des jeunes qui étaient allés dans des écoles alternatives. Et en fait, j'ai constaté l'ouverture qu'ils pouvaient avoir sur le monde, la curiosité, l'autonomie. Et je me suis dit, waouh, je ne suis pas certaine que j'avais la même à leur âge.
J'imagine qu'au sortir de la journée, les enfants s'expriment énormément, vous font partager leurs découvertes.
Oui, alors ça dépend des enfants. Le mien, il est assez discret. Mais en tout cas, quand il y a quelque chose qui le passionne et qui lui a plu, alors il nous raconte ce qu'il a fait dans le moindre détail. Et à côté de ça aussi, il y a les éducatrices qui font, enfin, avec les enfants, un petit rappel de ce qu'ils ont fait de la semaine en termes de travaux, etc. Donc on a un vrai suivi. Et on édite un journal qui est écrit par les enfants. Et ce journal raconte un peu tout ce qu'ils ont fait pendant l'année en termes d'événements, de sorties nature. Et ils écrivent aussi des petites histoires, des petits jeux. Donc voilà, on a un bon suivi.
Combien d'enfants sont inscrits à cette école ?
Actuellement, il y a 22 enfants, mais on peut atteindre un effectif de 30 parce que le lieu le permet. Voilà, donc on est même à la recherche d'enfants actuellement pour atteindre 30 enfants.
Alors, il y a 4 niveaux hein, au cycle primaire, du CE1 au CM2. Est-ce qu'il y a des sections pour chaque niveau ou alors tous sont réunis et s'adaptent aussi et s'enrichissent peut-être ?
Il y a 2 groupes classes, en fait, donc, qui réunissent le niveau CE1, CE2 et le deuxième groupe CM1, CM2. Et après, il y a des temps d'échange entre tous les groupes en fonction des activités. S'il y a un atelier philo ou une sortie particulière, et ben on va mélanger les groupes d'enfants.
Les parents sont autour d'une quarantaine. Est-ce que tous les parents sont impliqués aussi dans cette organisation ?
Effectivement, quand on envisage de rentrer à l'école buissonnière, on nous présente l'école et également la charte de l'école, dans laquelle il est donc précisé qu'il y a un temps d'investissement par mois de la part de chaque parent, et aussi où il y a une liste des différentes activités indispensables au fonctionnement de l'école. Et donc les parents choisissent là où ils ont envie de s'investir. Et c'est sûr que pour que l'école fonctionne, on se rend compte qu'il y a quand même besoin de pas mal de forces vives et que c'est important que les parents gardent cet engagement. Et on est quand même plutôt satisfait de l'engagement des parents. Bien sûr, certaines fois, il peut y avoir des périodes qui sont un peu difficiles, pas de disponibilité. Et ça, on l'entend totalement. Quand il y a cette intention qui est bien présente de soutenir l'école.
L'école buissonnière à Caracol, c'est depuis 2022, si j'ai bien compris, mais c'est une structure qui existait déjà bien avant. Est-ce qu'on peut dresser un petit historique de cette école ?
Ouais, cette école, elle a été créée en 2017. Par Edwige, qui est la directrice actuelle de l'école et qui est également éducatrice, et des parents motivés, du coup, à voir leurs enfants pouvoir aller dans une primaire avec une pédagogie de coopération. À ce moment-là, l'école, elle cherche des locaux et, en fait, elle a pu être hébergée dans différents locaux dans un premier temps proche de Barnave et puis ensuite à se rapprocher petit à petit de Die. Et en fait, ce qui a motivé l'achat de nouveaux locaux, c'est justement le fait que les locaux précédents n'étaient pas suffisamment grands pour accueillir tous les enfants et les familles du coup, qui avaient envie d'inscrire leurs enfants à l'école.
Une journée pour un élève débute à quelle heure et quelles sont les activités qui sont relativement quotidiennes ?
La journée, elle commence selon les saisons. C'est rythmé au rythme du soleil. Dans la période hivernale, donc actuelle, les enfants sont accueillis à l'école de 8h30 à 9h15. Donc en fait, les cours commencent vraiment à 9h15 et termine à 16h30. Et dans les périodes plus clémentes, plus printanières ou automnales de début d'année, accueil à partir de 8h15 et début des cours à 8h30 avec une fin à 17h. Et donc au sein d'une journée, il y a et des temps, donc, comme vous le disiez, encadrés avec l'éducatrice sur une thématique bien particulière. Là, ce que moi j'en comprends, c'est que certaines fois, c'est les maths, en fait, la thématique qui est encadrée. Et puis ensuite, les ateliers autonomes qui suivent ça, qui vont être plutôt sur une autre thématique, donc le français ou la géographie. Mais là, ils vont aller chercher. Donc en fait, il y a toujours une activité encadrée sur un domaine. Et puis ça change à chaque période. Et puis des activités autonomes sur les autres domaines. Et ensuite, les après-midi, Ça commence bien souvent par ce cercle de coopération où il y a un retour sur... où les enfants se mettent tous en cercle et discutent de différentes choses, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer et qu'ils ont envie d'emmener au sein du cercle.
Ils peuvent aussi proposer une exposition, en fait, ou expliquer un projet personnel. Par exemple, un enfant qui a voyagé dans tel lieu, eh ben, il va raconter son voyage, qu'est-ce qu'il a découvert. Et après, les enfants vont échanger sur ce sujet-là.
On parle de l'équipe qui est composée de Edwige, qui est directrice également, donc Edwige Picard, et de Nathalie Dimino. Ce sont deux professeurs, l'une est professeure des écoles, et donc avec une expérience et une formation dans le domaine de l'éducation, et Edwige plus éducatrice.
Dans le domaine de l'éducation populaire et de l'éducation à l'environnement.
Le rôle des parents est-il aussi celui d'être présent dans ces journées? Est-ce que parfois ils amènent un soutien?
Eh bien oui, ça dépend en fait des projets qui sont portés durant chaque période. Par exemple, actuellement sur cette période, c'est le projet voyage et carnet de voyage. Et donc les éducatrices ont sollicité les parents pour savoir si on avait une expérience de voyage à présenter aux enfants. Et donc là, actuellement, c'est tous les vendredis après-midi où il y a l'espace pour un parent pour venir présenter son voyage. Et derrière, il y a une documentation qui est faite par les enfants et ça va se traduire par un carnet de voyage.
Il y a cette éducation à la paix, hein, donc, qui est le fondement du projet. Comment se met-il en place cette notion de l'éducation à la paix
En fait, quand il y a un conflit dans la cour, par exemple, ben on va réunir les enfants et on va essayer de désamorcer le problème et que ce soit les enfants qui apportent une solution. En fait, ce n'est pas l'adulte. Et donc voilà, il y a un temps d'échange pour comprendre le problème et trouver la solution entre eux.
Et après, il y a ces cercles qui sont donc mis en place chaque jour où là aussi... Ben, les enfants sont invités à nommer les problèmes qu'ils ont rencontrés, à pouvoir échanger et trouver une solution collective. Et ils partagent aussi beaucoup leurs émotions dans ces cercles-là.
Est-ce que le principe, c'est aussi de laisser l'enfant le plus face à lui-même et aussi aux autres et d'avoir une place moindre de l'adulte auprès d'eux?
Moi, je pense que oui. En tout cas, en comparaison au système classique, hein, souvent en classe, 75% de la parole est monopolisée par l'adulte et on laisse que 25% à l'enfant. Ici, je trouve qu'il y a plus un équilibre. En fait, l'enfant, bah, déjà, il développe sa confiance en lui en étant au même niveau que l'adulte. Donc, je trouve que l'échange est plus constructif. Et donc, en effet, sa part est plus importante dans les échanges.
Moi, je suis une jeune maman, dans le sens où ma fille, elle est présente, c'est la deuxième année où elle est à l'école buissonnière. Mais c'est vrai que je me rends compte, justement, via les réunions pédagogiques qu'on a, qu'il y a aussi un cadre fort qui est mis au sein de l'école, qui vient aussi sécuriser. Donc, comment, c'est pas tant l'adulte qui est présent, mais les règles de fonctionnement, elles sont clairement édictées et en fait, elles ont été co-construites. Par exemple, il y a « je respecte les autres »,« je respecte le matériel »,« je m'implique dans mon travail ». Et donc, je pense qu'elles sont régulièrement rappelées et quand elles ne sont pas respectées, eh bien, les éducatrices trouvent aussi des moyens de les rappeler. Et pas dans la punition, mais dans... en soulevant l'importance que ça a et les conséquences provoquées quand elles ne sont pas respectées.
C'est amené aussi une notion de responsabilité auprès de l'enfant.
Oui.
Donc il y a différents modules, il y a les sorties collectives, des séjours en immersion, des ateliers autonomes aussi, des ateliers encadrés. Alors toutes ces propositions, est-ce qu'on peut les définir rapidement en quelques mots?
Eh bien, pour ce qui est des sorties nature et des séjours nature, effectivement, le lien avec la nature, il est très important à l'école buissonnière. Et selon les périodes, il y a du coup des sorties nature, c'est-à-dire une fois par semaine, les enfants sont en nature et font un peu ce qui peut être appelé l'école de la nature. Donc ça a lieu à Truchard, ces sorties-là. Et donc Edwige, qui s'est formée à l'éducation à l'environnement, propose différentes activités. Et en parallèle, il y a également des séjours nature qui ont lieu. Donc là, il y en a au moins deux par an, je dirais. Il y en a un au moment de la rentrée des classes, peu de temps après, afin de nourrir la cohésion de groupe. Et donc, ces séjours ont une durée d'une semaine, où les enfants partent du coup, sans leurs parents. Nous, ce qui est proposé bien souvent, c'est qu'on les retrouve à la fin du séjour, pour aussi qu'il y ait la cohésion entre les parents qui puissent se faire, en tout cas la rencontre. Effectivement, dans ces sorties, il y a bien souvent des accompagnateurs professionnels qui sont présents.
Ils sont accompagnateurs de montagne, de haute montagne, et qui viennent là pour encadrer les enfants.
Et il y a les ateliers également, ça pareil aussi. Vous avez des contacts avec des professionnels pour initier les enfants à des activités ou à leur apprendre certaines notions d'activité?
Oui, donc on fait appel à des adhérents de la Somme Médiane, justement une couturière par exemple, et aussi les parents qui sont aussi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, Lorelai qui est chanteuse. On a, je suis dans la communication, je suis graphiste, donc aussi je pourrais intervenir auprès des enfants. En fait, en fonction de ce que l'on fait, on apporte notre petite pierre à l'édifice.
Il y a aussi, par exemple, Gilles qui a proposé des jeux au sein de Caracol. Il y a, à un moment donné, une prof de musique qui est aussi venue proposer des ateliers musique. Je trouve que les éducatrices, elles savent s'entourer des personnes correspondant finalement aux notions aussi qu'elles veulent développer et construire avec les enfants.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Il y a aussi cette transition donc du primaire au secondaire. Alice, vous disiez avoir un enfant qui est passé donc du CM1 directement en 6e. Pour lui, quel a été le changement de cadre?
Alors, en fait, la transition, elle s'est plutôt bien passée. Moi, j'avais un peu des doutes, j'avais un peu peur pour lui, parce que c'est vrai que comme c'était... En fait, c'est un enfant qui ne tient pas forcément en place. C'est un enfant très sportif et qui a besoin de ne pas être assis sur une chaise toute la journée. J'avais un peu peur qu'au collège, ça soit difficile pour lui. Et au final, il s'est super bien adapté parce que le collège propose aussi des activités entre midi et deux. Donc lui, il peut faire du badminton, il peut jouer au ping-pong, etc. Et donc, ça crée un équilibre. Et après, en termes de niveau scolaire, il est tout à fait à l'aise, en fait. Et il n'y avait pas eu de mise à niveau ou quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé, en tout cas. Et il fait une très belle scolarité au collège.
Par rapport au niveau et à la transition, moi, j'avais discuté avec une neuropsychologue qui m'avait dit que, justement, l'école buissonnière était quand même assez reconnue pour préparer à cette transition école de la coopération et collège classique. Puis après, c'est vrai que le collège de Die, il propose aussi plein d'activités, donc il peut être... c'est quand même un collège sympa, de ce que j'en comprends. Donc, il y a plusieurs enfants de l'école buissonnière qui continuent là-bas.
Je reviens sur cette notion de participation des parents, des parents qui ont leur enfant à ce moment-là dans l'établissement. Quelle est leur place quand l'enfant viendra à quitter l'établissement? Est-ce que le parent doit aussi se désister, laisser la place à d'autres?
Oui, alors j'ai un exemple, un parent qui est resté coprésident pendant de nombreuses années. Et même si son enfant était parti au collège depuis 3 ou 4 ans. Donc souvent, on est très attaché à ce projet. Et donc les parents continuent à suivre le projet de loin ou de près. En tout cas, ils s'y investissent encore en tant que bénévoles. Donc c'est super.
L'école buissonnière étant située à Caracol, cela nécessite financement. ne serait-ce que pour l'achat des locaux pour pouvoir perdurer hein, dans cet établissement. Et pour cela, vous avez lancé un crowdfunding au travers de Hello Asso, je crois, et qui est donc financé depuis le 10 novembre. Et quelle est cette perspective pour vous
Eh bien, pour nous, ce financement participatif, il est très important. Parce qu'on va dire que c'était un projet assez ambitieux de racheter le restaurant. Et c'est chouette que ça ait eu lieu parce que ça permet que ce tiers-lieu existe et que plein de projets puissent avoir lieu en son sein. En fait, c'est quand même beaucoup d'énergie de se réapproprier un lieu, de y installer l'école, de faire en sorte que la cour soit adaptée aux enfants, de rénover la cuisine. Et donc, il y avait plusieurs activités rémunératrices qui avaient été envisagées au moment du rachat. Et en fait, là, après 2 ans, on se rend compte que toutes n'ont pas pu être mises en place et que du coup, même si le remboursement des emprunts, lui, on y arrive grâce aux activités mises en place, en fait, on a aussi le remboursement des prêts solidaires avec des personnes, du coup, qui sont solidaires du projet, qui l'apprécient et veulent le supporter et en même temps qui souhaitent à un moment donné récupérer leur argent. Donc on a fait un échéancier de remboursement des prêts solidaires, mais là on a la première vague de prêts qui arrive en fin 2024 et en fait on n'est pas à même de les rembourser dans leur intégralité et c'est pour ça qu'on a mis en place ce financement participatif.
Il suffit de se rendre hein, sur le site Hello Asso hein, pour participer. Je mettrai le lien hein, de cette page sur le texte de l'émission, sur le site RDWA. Quel est cet objectif pour vous De quelle somme espérez-vous percevoir pour bien établir cette acquisition, en quelque sorte
mm-hmm. On a mis une première étape de 50 000 euros. Et ce serait effectivement super si on arrivait à les récupérer parce qu'on pourrait rembourser les premiers prêts solidaires. Après, la totalité des prêts solidaires, c'est de 185 000 euros. Plus les prêteurs acceptent de décaler le remboursement dans le temps, plus ça laisse du temps à Caracol d'accueillir des activités et du coup de pouvoir être à même de les rembourser. C'est sûr que plus on a de l'argent là, plus ça vient alléger la pression financière sur les épaules de Médiane. Voilà. Mais déjà, si on arrive à notre objectif, ce serait super.
Est-ce qu'il existe un soutien où vous êtes en totale autonomie de gestion de ce lieu? Ou alors est-ce que vous avez un soutien, ne serait-ce léger peut-être, de collectivités ou d'institutions?
Cette année, on a eu un soutien de la mairie de Die, comme association en fait du territoire. Mais sinon, c'est vrai que... Eh bien, comme c'est une école associative, on ne reçoit pas de soutien, pas de subvention publique. On a essayé de voir si un des postes pouvait passer sous contrat d'éducation nationale. Et en fait, en tout cas, la réponse a été non pour cette année. Et on n'est pas sûr que ça soit vraiment possible. Donc c'est vrai que c'est une difficulté à laquelle doivent faire face les écoles associatives.
Dans l'ensemble, les parents d'élèves sont-ils satisfaits du résultat auprès de leur enfant, de cette école buissonnière?
Moi, je dirais que oui. Sinon, je pense qu'ils auraient enlevé leurs enfants. En tout cas, peut-être les parents qui sont moins satisfaits, ils enlèvent leurs enfants. Mais ceux qui sont là, ils sont satisfaits. Après, les écoles... Il y en a pour qui ça correspond, l'école et ce rythme-là, et puis d'autres, justement, pour qui ça ne correspond pas. Mais là, les parents s'en rendent assez vite compte. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné quand même. Tout à l'heure, on a parlé des enfants, justement, qui pouvaient être à fort potentiel ou pas, mais en tout cas pour qui ça roulait assez bien. L'école, elle vient aussi beaucoup aider les enfants pour qui c'est pas si facile, en fait. Des profils un peu extraordinaires qui souffrent de dyslexie ou dyscalculie. Et voilà, là aussi, l'école vient vraiment faire un travail très précis, enfin, les éducatrices, très précis et j'allais dire délicat avec chacun des enfants pour voir qu'est-ce qui peut l'aider à surpasser la difficulté présente.
Nous revenons sur ce lieu d'accueil de l'école buissonnière, Caracol. Donc, c'est une structure qui s'est montée depuis 3-4 ans maintenant. Le désir initial pour ce lieu, c'était quoi ?
En fait, Caracol, donc, c'était de faire un tiers-lieu pour accueillir plein de structures différentes. Donc actuellement, on accueille les Popotes, hein, une cantine solidaire qui fournit des repas à prix libre et accessible à tous chaque semaine. Mais aussi, on veut accueillir, par exemple, des personnes qui proposent des stages. Ça peut être des stages sur la gestion des émotions, sur comment on accueille la violence. Et, par exemple, on peut avoir des stages de yoga ou de théâtre. Alors, on essaye d'enrichir les propositions.
Voilà. Rendre le lieu vivant, en fait. Parce que, du coup, l'école, elle est présente du lundi au vendredi. Et puis, quand il y a les sorties nature, ben, du lundi au jeudi. Et puis, finalement, les week-ends, les vacances, elle n'est pas occupée. Et ben, du coup, c'est et faire profiter aux associations du territoire, aux structures du territoire de cet endroit pour y développer leurs activités. Et aussi, puisque c'est également important dans le modèle économique de Caracol, de pouvoir louer ces espaces et de permettre les fameux remboursements dont on parlait tout à l'heure.
Alors, il y a plusieurs manières hein, d'occuper cet espace.
On s'est prêté à l'exercice de lister un peu tout ce qui avait pu avoir lieu au sein de Caracol depuis sa création. Et par exemple, on a accueilli la fête de la musique il y a 2 ans, des ateliers en lien avec le SCDD qu'ont eu lieu là-bas, des ateliers de transformation de nourriture, les rencontres de l'écologie. Ont aussi eu certaines interventions là-bas, des contes, du théâtre forum de sensibilisation, des films, des rencontres poétiques, un café mortel des enfants, des vide-greniers, voilà.
Une grande place à l'éducation populaire, notamment, oui. Donc... Et pour terminer cette émission, je rappelle donc ce financement participatif hein, qu'on peut trouver sur le site Hello Asso. Alors pour vous, quelles sont les modalités et quelles sont peut-être des conditions également ?
Eh bien du coup, donc sur le site, il y a une petite vidéo qui représente en 2 minutes le projet et le pourquoi de ce financement participatif. Les dons, ils sont libres. Ils vont de quelques euros à nos limites, en fait, sachant qu'on a mis en place, avec l'aide des adhérents de l'association et notamment des parents, plusieurs contreparties qui sont en fait données en échange d'un certain montant de dons. Et avant de les présenter, je rappelle que ces dons, pour les personnes qui sont imposables, ils sont défiscalisables à hauteur de 66%. Du coup, c'est un... En donnant 33% de votre argent, vous faites un cadeau de 100% du montant à Caracol et à la poursuite de ce projet. Et donc, pour revenir sur les contreparties, elles sont de plusieurs types.
Donc, on a par exemple une maman qui est artiste et elle propose une fresque pour une valeur de 4000 euros. Donc, c'est un très, très beau projet. On a une maman qui est chef nomade et elle propose un atelier de cuisine. On a aussi des parents qui ont des vignobles, en fait, le domaine de Genet, et ils proposent des bouteilles Lunabule qui sont bio, sans alcool. Nous avons aussi un accompagnateur de randonnée qui propose ses ânes pour une balade à la demi-journée ou à la journée.
Il y a aussi l'espace de Caracol qui est mis à disposition en échange de certains dons pour une soirée ou toute la journée. Donc en fait, on encourage toutes les personnes qui veulent soutenir le projet et se faire un petit cadeau en parallèle à entrer sur la page Hello Asso et puis à donner ce qu'elles peuvent, sachant que tout soutien est bienvenu pour nous.
Eh bien, je vous remercie Alice Chireux et Nelly Libert de nous avoir donné un peu de votre temps sur Art du Bois pour nous parler donc de l'association Médiane et de cette école buissonnière. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.